Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
L'étude d'impact et de perception de la réforme de la police par les policiers. Contexte et attente des policiers. Quel est l'impact de cette réforme sur la vie des policiers? Quelle perception s'est fait le policier de cette réforme? Quels sont ses droits? C'est la problématique qu'aborde aujourd'hui le magazine de promotion de vos droits et devoirs avec le professeur Raoul Kienge-Kienge, directeur de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa, Emmanuel Kabengele, tous consultants de cette école dans le cadre de cette étude. Excellente écoute à tous. L'étude d'impact et de perception de la réforme de la police nationale congolaise par les policiers. Pour parler de ce thème, nous recevons le professeur Raoul Kienge-Kienge et M. Emmanuel Kabengele, consultant de l'école de criminologie de l'université de Kinshasa. Professeur Raoul, cette étude a commencé quand?
Ok, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez effectivement de parler de cette étude. Eh bien, l'étude a finalement pris, je crois, 6 mois. Nous avions commencé cette étude dans la mise en œuvre à partir du premier trimestre de 2023. Et c'est comme ça que en septembre 2023 également, nous avons pu clôturer cette étude comme c'est indiqué dans le rapport final qui nous a amené dans 3 provinces, en Ituri, en Équateur et au Kasaï.
Plan d'action quinquennal 2, PAC 2 de la réforme de la police. Dans quel cadre cette étude a-t-elle été réalisée?
Voilà, donc cette étude a été réalisée à la suite du contrat de consultance que l'Université de Kinshasa a conclu avec l'ICAF qui, dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police, la phase 3, qui est financée par l'Union européenne. Et donc, nous avons réalisé cette étude dans ce cadre-là pour pouvoir faire une évaluation de ce qui a été fait en faisant parler évidemment les policiers eux-mêmes qui sont les destinataires de cette réforme pour avoir leurs attentes et savoir si pour eux la réforme a pu atteindre justement leurs attentes par rapport à ce que cette réforme prévoyait.
Et ça couvre quel champ d'application?
Alors, l'étude d'impact et des perceptions de la réforme par les policiers couvre en fait d'une part tout ce qui concerne les conditions de travail et de vie des policiers ainsi que leurs relations avec la population. Et donc, quand nous parlons des conditions de vie, on voit conditions de logement, la question de la rémunération, on voit également sur le plan du travail, l'équipement, la formation, la gestion de carrière, les relations entre policiers de même rang, de rang supérieur et relations entre policiers et policières au sein de la police et enfin relations avec la population. Et donc c'est tous ces champs-là qui a été couvert par l'évaluation, non seulement de l'impact mais aussi des perceptions de la police pour savoir s'il y a eu des améliorations à tous ces niveaux.
Quel était l'objectif?
Très bien. Alors, bien, l'étude a été réalisée justement dans l'objectif général de contribuer à l'évaluation de l'impact et des perceptions des policiers sur la réforme afin justement de renforcer, faire avancer la réforme qui, évidemment, pour certains piétine, pour ne pas dire est en arrêt ou est bloquée. Donc, cet objectif général qui s'est déployé dans la collecte de données qui pouvait servir justement de cadre de référence pour pouvoir faire le suivi et l'évaluation au sein de la police, de toutes les actions dans le cadre de la réforme, mais aussi pour pouvoir permettre aux policiers de se prononcer, parce que c'est eux les destinataires premiers de la réforme, afin de dégager, enfin, qui est comme un troisième objectif, les stratégies, donc les orientations stratégiques, qui peuvent permettre de tonifier le processus.
Après le professeur Raoul, nous recevons à présent M. Emmanuel Kabengele, consultant également de l'école de criminologie de Kinshasa pour cette étude.
Je voulais juste placer quelques mots. Oui. D'abord, de par le cadre de l'étude, le prof Raoul a bien situé le cadre de l'étude, mais étant également un observateur actif du processus de réforme de la police, je voudrais également situer situer le cadre en faisant voir qu'il y a eu une phase 1 du programme et la phase 2 du programme et nous en sommes à la phase 3. Donc l'Union européenne, dans le cadre de l'appui à la réforme de la police, il y a eu d'abord une première phase avec des actions qui ont eu à être menées, il y a eu une deuxième phase, il y a eu une troisième phase et nous on considère également aussi cette étude comme une étude qui donne pratiquement le thermomètre de la réforme de la police, mais également aussi en la situant sous son aspect historique. C'est un grand avantage. Et dans le cadre des objectifs déclinés par le professeur, il a également aussi fait état du fait que on pense qu'à travers l'étude, ça pourrait constituer un cadre de référence, une boussole, pour pouvoir effectivement recadrer ce qui est à recadrer, parce qu'en fait, un peu, le but de l'étude, c'est pouvoir donner des grilles qui nous permettent, en termes de perspectives pratiques, de pouvoir nous améliorer sur des questions où nous devons aller de l'avant. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la réforme a déjà pris son parcours et on doit aller avec la réforme jusqu'au bout.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
L'étude d'impact et de perception de la réforme de la police par les policiers. Avant d'en arriver à cette étude, quelle est la problématique que vous avez décelée au niveau de notre police?
Bon, il faut peut-être vous dire que jusque-là, on parle de réforme, mais on n'a pas encore écouté le policier lui-même.
Et vous l'avez écouté, il vous a parlé de ses problèmes.
Le premier bénéficiaire de la réforme, c'est d'abord la population. Mais il y a également aussi le bénéficiaire direct, qui est le policier. Et nos impressions dans le cadre de cette problématique, c'est que le policier avait placé la barre très très haute. Donc lorsque on a commencé la réforme, la barre était très haute et que à l'heure actuelle, bon, la plupart des policiers sont presque déçus de l'état d'avancement de la réforme dans le cadre de la rencontre avec leurs attentes, dans le cadre pratiquement de la solution à leurs besoins le plus immédiat en termes de conditions de vie, en termes d'amélioration de conditions de travail, en termes également aussi de la création d'un environnement sûr. Donc, c'est une étude qui vient pratiquement écouter les policiers, mais lorsqu'on a écouté les policiers, on a compris qu'il y avait effectivement plus d'attentes envers le processus qui était déjà enclenché et que pour le moment, ils sont quelque peu déçus. Ils se posent et tournent pratiquement le regard vers le gouvernement qui doit pratiquement s'investir pour que cette réforme ne soit plus un slogan.
Et nous parlons justement de cette question de la perception même de toutes ces réformes par les bénéficiaires qui sont les policiers. Est-ce qu'ils pensent aussi à la question du recrutement, puisqu'on retrouve des brebis galeuses parmi les policiers, n'importe qui, un chégué ou bien un couloun, on fait de lui un policier.
Mais vous savez que dans la police, il n'y a pas que des brebis galeuses. Il y a également aussi des personnes qui nous ont impressionnés agréablement, parce qu'on pensait que, et nous, en faisant pratiquement l'étude, en descendant sur le terrain, on se disait, on avait également aussi une image presque étiquetée de la police par rapport aux tracasseries, par rapport à tout ce que l'on a eu à vivre. Mais l'on s'est rendu compte qu'un policier, c'est presque un martyr vivant. J'ai dit bien un martyr vivant dans la mesure où les réalités que nous avons rencontrées, par exemple la Bandaka, ce sont des réalités qui nous feront pleurer si on se mettait à les étayer policier. Ça voudrait dire que pour pouvoir se sentir policier, il faut de sacrifices et que ces sacrifices méritent d'être qualifiés de sacrifices martyrs. La réforme avance, mais c'est une réforme qui avance sans moyens conséquents du gouvernement congolais. Et c'est pratiquement ça le tableau qui est décrit dans ce rapport.
La plupart des policiers parlent de leurs mauvaises conditions de vie. Ils attendent beaucoup de l'État. Est-ce qu'ils perçoivent aussi cette police, ils la considèrent comme une sorte d'apostolat?
Oui, c'est effectivement ça ce qui est ressorti du terrain. Ça voudrait dire qu'ils font l'apostolat parce qu'ils n'ont que la République démocratique du Congo comme république. Ils n'ont pas une autre nation. Et je voudrais revenir sur la question de recrutement. Ce qui est vrai, c'est que déjà au niveau institutionnel, au niveau légal, il existe déjà la loi sur le statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise qui essaie de donner les indicateurs légaux d'entrée en police, de fonctionnement de la police ou les indicateurs légaux d'amélioration de conditions de vie de policier. Et déjà, cette loi essaie déjà de situer la question de recrutement qui, si le recrutement est respecté selon les normes dictées par cette loi, on ne pourrait pas arriver à dire qu'au niveau de la police, nous avons des personnes qui ne sont pas instruites. Donc, c'est dit que déjà, au niveau de la loi, tout est... C'est même cela qui a justifié la réforme. La réforme vient pratiquement du fait qu'on a eu affaire à une police multicomposite, une police qui venait juste à l'issue de dialogue entre Congolais, et à cette issue-là, il fallait qu'il y ait une seule police qui était issue des armées, des autres groupes armés, issus des négociations et de l'ancienne gendarmerie, et finalement, il a fallu en faire une seule police. Et là, ça posait de sérieux problèmes et qu'il fallait qu'il y ait le processus de réforme. Et les conditions de recrutement pour nous, on s'est dit que si elles sont bien respectées, prochainement on peut se frotter les mains et se dire qu'on a affaire à la police que nous méritons.
Quelles sont les conclusions majeures de cette étude?
Bon, il faut dire que l'étude en soi, lorsque vous la lisez, c'est une étude de près de 200 pages. Parce qu'il fallait être fidèle, avoir une proximité d'interprétation de données de terrain, parce que les policiers se sont exprimés, et en s'exprimant, il fallait également aussi que nous soyons en train de rendre compte effectivement de ce qu'ils ont pu dire. L'étude aboutit à ce que nous on a considéré comme conclusion, mais on a structuré ça en termes d'avancées constatées et principaux défis. En termes d'avancées, on considère par exemple le fait qu'il y ait eu une formation qui a eu à être donnée aux policiers, c'est déjà une grande avancée. Bien sûr que là, il y a un bémol parce que la plupart des policiers que nous avons eus, il y avait un déficit de formation initiale. Une autre conclusion, je commence par le positif, on n'est pas simplement dans un criticisme. Donc on est également aussi en train de relever un certain nombre de points positifs. Et au-delà de cela aussi, bon, les relations entre policiers et avec la population, petit à petit, on sent qu'il y a une progressive amélioration, bien qu'encore timide. Ça, c'est quand même un fait. Il y a une autre conclusion, ça s'entre toujours à l'actif. Le policier comprend et se fait une idée, perçoit vraiment la réforme comme un processus qui vise l'amélioration des conditions de vie et de travail de policier. Donc, pour le policier, pratiquement moyen, la réforme est presque avant tout l'amélioration de conditions de vie et de l'environnement de travail. Ça, c'est le trois conclusions clés, mais il y a deux défis, des taches d'huile et des points sur lesquels les policiers se sont exprimés. Là, la première tache d'huile, c'est que la réforme de la police nationale congolaise, pour le policier, c'est encore une réforme inachevée. Pour certains, c'est une réforme de nom. Pour d'autres, c'est encore un slogan. Pour d'autres encore, quand vous êtes, par exemple, à Banda, quand on vous dit réforme, c'est un arbre ou c'est... Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore vu ce qu'eux considèrent comme réforme. Il y a une autre conclusion, c'est que la réforme est perçue comme un processus essoufflé par suite de la faible implication des autorités. Donc, il y a toujours de plaintes en termes de fonctionnement, en termes de décaissement. Et finalement, on se rend compte que la police police est relativement abandonnée par son autorité. Et il y a une autre conclusion, c'est que on n'a pas senti le rôle de Parlement dans l'appui à la réforme de la police. Donc ils se sont rendus compte, les parlementaires discutent moins de questions de police. Il n'y a pas eu de questions orales avec débat sur l'amélioration des conditions de vie des policiers. L'attention que le Parlement accorde à leur égard, c'est une attention à rechercher. Par rapport aux effets de la réforme, ils considèrent que ces effets continuent encore à se faire attendre.
J'ai comme l'impression que les policiers se font une perception négative de toutes ces réformes.
Mais la perception, elle est négative. Elle est négative parce que pour lui, la réforme, c'est pas des beaux textes. Certains considèrent qu'il y a des textes, c'est bien, mais c'est juste des textes pour rester dans les tiroirs, c'est que ça devient juste des beaux textes des tiroirs. Donc pour eux, la réforme, c'est l'amélioration des conditions de vie. Il y a des textes, oui, mais c'est l'application de ce texte-là
qui pose problème.
Pour qu'ils sentent qu'ils sont dans la réforme, c'est que son enfant n'est pas chassé de l'école, c'est qu'il sait avoir un habitat au minimum convenable. Quand un enfant est malade, il sait facilement avoir accès aux soins de santé. Il sait que lorsqu'il rentre du travail, il peut avoir son aliment convenable sans tracasser la population. Donc voilà en fait un peu tous ces indicateurs pour eux, des indicateurs pratiques que la réforme doit répondre.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Okapi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tous les samedis à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit
et citoyenneté.
Avant de conclure, on revient au professeur Raoul. Quel est l'apport de l'Union européenne dans tout ça?
Bien, effectivement, comme l'a dit Monsieur Emmanuel Kabengele, la réforme demande des moyens. Et si le gouvernement, qui est l'autorité en fait qui gère la police, ne sait pas mettre des moyens à disposition, il faudrait quand même effectivement qu'on trouve ces moyens ailleurs. Et c'est ce que les partenaires extérieurs apportent justement à la réforme. C'est ce que l'Union européenne apporte, justement tout l'appui matériel qui a permis de construire et même réhabiliter certaines infrastructures de la police, des formations qui sont organisées. Tout cela demande des moyens et c'est ce que l'Union européenne apporte. Mais l'Union européenne ne doit pas remplacer
le gouvernement.
C'est pour cela que M. Emmanuel a indiqué également, et à la suite des policiers sur le terrain, ils estiment qu'ils rendent service à l'État, mais l'État ne sert pas leurs droits. Et donc, c'est une interpellation qu'ils font, qu'ils adressent justement à l'État pour que la réforme ne repose pas sur l'appui des partenaires extérieurs, mais que le gouvernement s'implique, non seulement le gouvernement, mais aussi le Parlement, dans ses attributions constitutionnelles, pour pouvoir faire le suivi et le contrôle, justement, de la mise en œuvre de ces textes, notamment la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la police, la loi sur le statut du personnel de carrière des services publics au sein de la police. Il faudrait vraiment que le gouvernement prenne à bras le corps la réforme parce qu'on a atteint un point de non-retour. Les attentes des policiers et de leurs familles
sont nombreuses.
Sont très nombreuses.
Plusieurs formations auxquelles on assiste, mais qui ne résolvent absolument rien. Le problème reste entier. Monsieur Emmanuel, quel est le message que vous pouvez adresser à la fin de cette étude?
Lorsque vous faites le terrain, vous n'en sortez pas indemne. Sincèrement, nous sommes allés à Ituri, nous sommes allés à l'Équateur, nous étions au Kasaï, spécifiquement à Tshikapa, et nous sommes ici à Kinshasa. La réalité que nous avons vécue, les discours que nous avons écoutés, tout cela nous ont permis de nous mettre dans la situation du policier. En fait, nous sommes fondamentalement droits de l'homiste, mais nous nous sommes rendus compte que le gouvernement congolais devait davantage faire œuvre utile pour sécuriser le droit de policier. Et si le gouvernement congolais arrive à sécuriser les droits de policier en respectant scrupuleusement le contenu de la loi sur le statut du personnel de carrière de la police nationale. Quand vous lisez cette loi, elle est vraiment presque parfaite. Hein. Vous pouvez dire que le policier congolais, si la loi est respectée, pourrait être à l'abri d'un certain nombre de soucis. Si le gouvernement commence d'abord avant tout par respecter le contenu de cette loi, on peut se dire qu'on a gagné le pari. Parce que sécuriser le policier voudrait également dire sécuriser la population. Mais lorsque le policier n'est pas sécurisé dans ce droit, pour pouvoir s'atteler à la survie, pour pouvoir sécuriser ce droit, il doit pouvoir maintenant aller à la population, se sécuriser lui-même. Et ce qui n'est pas plus intéressant.
Voilà, il faut respecter les textes, appliquer les résolutions qui sortent de toutes ces réformes, des formations. C'est la leçon à tirer pour améliorer les conditions de vie des policiers qui sont bénéficiaires de toutes ces réformes. L'étude d'impact et de perception de la réforme de la police nationale congolaise par les policiers, c'était le thème du magazine de promotion de vos droits et devoirs. Droit et citoyenneté est donc maintenant terminé. Merci de votre écoute et de rester toujours branché sur la fréquence de la paix.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.